Étoile, partage et musique, c'est la règle de 3 de Sylvie Vauclair. Sa première étoile, la petite Sylvie, l'a vue à 4 ans dans le ciel Beauceron, à côté de Chartres, près de la maison de campagne de ses parents. Sa mère institutrice lui faisait découvrir les étoiles la nuit et lui lisait des passages de l'astronomie populaire le jour. Mais rêver aux étoiles ne suffit pas pour devenir l'astrophysicienne multiprimée et mondialement respectée qu'elle est aujourd'hui. Sylvie Vauclair a beaucoup travaillé, de longues études scientifiques et 2 thèses sous la direction d'Hubert Reeves et Evry Schatzman. Son mari astrophysicien a lui aussi la tête dans les étoiles. Ensemble, en plus de leurs 2 fils, ils ont enfanté l'observatoire Midi-Pyrénées à Toulouse.
Je crois que Toulouse est devenue, pour les sciences de l'univers, la capitale française.
Mais à quoi bon apprendre si ce n'est pour partager et transmettre? Sylvie Vauclair, aujourd'hui professeure émérite et vulgarisatrice, est fière de l'être. Officier des Palmes académiques, elle a enseigné plus de 30 ans à l'université Paul Sabatier de Toulouse.
Je pense que quand on parle au public de sciences, on est toujours amené à parler un petit peu du sens de la vie, du sens du monde, et c'est vrai qu'il y a un grand aspect philosophique.
Lors de ses nombreuses conférences publiques, cette spécialiste du Soleil, toujours rattachée à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie, traduit les concepts scientifiques sophistiqués en mots de tous les jours. Avec son oreille absolue, Sylvie Vauclair chante depuis l'enfance. Aujourd'hui, elle se produit parfois avec l'ensemble vocal toulousain à contretemps.
Il paraît que les personnes qui ont le cerveau le plus équilibré sont les chefs d'orchestre. Parce que justement, ils ont la partie artistique et aussi la partie rigoureuse.
Pour ses conférences, elle invite des compositeurs comme Claude Samuel Levine. En chœur, ils évoquent les fameuses ondes sonores qui font résonner les étoiles comme des instruments. Ils ont écrit la nouvelle musique des sphères. Avec la chanson du soleil ou la symphonie des étoiles, les titres chantants de ses ouvrages scientifiques parlent pour elle. Musique maestro-physicienne.
Voilà Sylvie Vauclair, donc votre dernier livre, La Nouvelle Symphonie, justement des étoiles, on en parlait. Vous dites souvent que nous sommes tous descendants d'étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire?
Eh bien, nous sommes faits, nos corps sont faits d'atomes, vous savez, de molécules, eux-mêmes faits d'atomes, les atomes eux-mêmes faits de noyaux, d'atomes, de noyaux atomiques. Et c'est la réalité concrète, ces atomes, ces noyaux d'atomes dont nous sommes faits ont été fabriqués dans des étoiles, avant la naissance du Soleil et de la Terre. Il fallait que ces noyaux d'atomes soient là pour que nos corps puissent exister, puis pas seulement nos corps, tout ce qui est autour de nous. Mais je réagis toujours tout de suite après en disant que nous ne sommes pas que ça. Parce que ça, ce sont les briques de base dont nous sommes faits. Mais en fait, nous sommes beaucoup plus que ça. Nous sommes, disons déjà, la vie. Oui. C'est quelque chose d'organisé d'une façon tellement extraordinaire qu'on ne sait même pas encore. Oh bon, il y a des tas de gens qui travaillent là-dessus, on sait beaucoup de choses. Mais on ne sait même pas encore comment la vie est née. Et puis la conscience, et puis l'être humain, ce que nous sommes, et le cerveau. Donc nous sommes en réalité beaucoup plus que des poussières d'étoiles ou des descendants d'étoiles. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas eu les étoiles avant, nous ne serions pas là.
Ça s'appelle Benjamin.
On apprend plein de choses dans votre livre, et notamment que la journée, par exemple, n'a pas toujours duré 24 heures.
Ah non, parce que la journée, le jour... Le jour, c'est la rotation de la Terre sur elle-même. Oui. Et la Terre n'a pas toujours tourné de la même façon sur elle-même. En fait, elle se ralentit au cours du temps et c'est lié à la Lune.
Et donc, mais ça durait 18 seulement. Heures. Vous dites que la journée durait 18 heures. Le jour durait 18 heures seulement. C'est ça.
Oui, oui.
Il y a 900 millions d'années.
Ouais. Voilà. Et on en a des preuves par exemple, des coraux. Là, je ne suis pas très spécialiste de ça. Mais on en a des preuves. Et en fait, c'est lié au fait que... Enfin, il y a beaucoup de choses en même temps. Vous savez, la science, enfin, tout est toujours très complexe. On essaye de simplifier. Mais un phénomène important, c'est que la Lune s'éloigne de la Terre. La Lune s'éloigne de la Terre de quelques centimètres par an.
Ah oui.
Et ça va ensemble, parce que la Lune qui s'éloigne de la Terre, ça conduit la Terre à se ralentir, sa rotation. Et ça, c'est quelque chose qui est bien étudié maintenant. Et depuis que des astronautes sont allés sur la Lune, donc depuis l'émission Apollo, on le mesure, ça. L'éloignement de la Lune par rapport à la Terre avec ce qu'on appelle le laser-Lune. On envoie un faisceau laser qui se réfléchit sur la Lune parce qu'il y a des miroirs qui ont été posés par les astronautes et qui reviennent. On peut mesurer la distance de la Lune au centimètre près.
Excuse-moi, donc, si vous vous clair, mais juste une question vraiment de béotien. Si la Terre ralentit très doucement, c'est quoi les conséquences?
Disons que comme c'est très doucement, il y a des conséquences évidemment sur toute la vie sur la Terre et tout ça. Mais sinon, on n'arrivera pas à une époque où la Terre va complètement se figer. Donc en fait, pour nous, à notre échelle, c'est vrai que les conséquences ne sont pas très élevées. Mais c'est vrai que pour l'astronomie, ça fait beaucoup de conséquences. Ouais. Et puis justement, ça veut dire aussi que Juste le jour, enfin c'est important de se... On a l'idée que le jour est vraiment stable, que le temps c'est figé et tout ça, eh bien non, ce n'est pas figé.
C'est toujours
à changer.
Alors on le voit dans votre livre, et notamment grâce aussi aux photos, l'espace fait rêver des millions de gens. Et on va le voir avec vous, Anna, l'Agence spatiale européenne d'ailleurs, n'a jamais reçu autant de candidatures que cette année. Hein.
Oui, plus de 22 000, un record pour la dernière campagne de recrutement. Lors de sa précédente édition en 2008, l'agence en avait reçu trois fois moins. Alors les aspirants aux étoiles sont majoritairement français, plus de 7 000 postulants, devant l'Allemagne et le Royaume-Uni, entre autres. Et ce regain d'intérêt, eh bien, il pourrait être attribué à l'hypermédiatisation de notre Thomas Pesquet. Et puis, surtout, presque un quart des candidatures maintenant sont féminines, plus du double par rapport à la dernière fois. Mais n'est pas astronaute qui veut. Hein. Pour poser sa candidature, il fallait remplir un certain nombre de critères. Être âgé de moins de 50 ans, parler couramment anglais et russe, détenir un bac plus 5 et surtout avoir une expérience professionnelle significative dans le domaine scientifique. Alors en fonction de ces critères et bien sûr les 22 000 candidats, l'agence va en présélectionner 1 500. Arriveront ensuite des tests psychologiques l'année prochaine. Et au final, seuls 4 à 6 astronautes obtiendront leur billet vers l'espace. Sylvie Vauclair, vous l'avez étudié depuis les observatoires. Est-ce que ça vous a tenté un jour de monter dans une fusée?
J'ai eu la chance, il y a bien longtemps, à une époque où existait quelque chose qu'avait fait Patrick Baudry, qui s'appelait le Space Camp et qui était à Cannes. J'ai eu la chance, pour m'amuser, là, comme pour jouer, si vous voulez, de subir quelques entraînements d'astronautes.
D'accord.
Alors, je vais vous dire que ce n'était pas pour moi. Quoi, parce qu'il y a une question de santé. Alors, il y avait une truc de centrifugeuse. Là, ça allait, la centrifugeuse. Mais en quelques mots, vous êtes sur un siège avec un cercle autour de vous qui est lui-même accroché à un cercle autour de vous, qui a encore un autre cercle, etc. Tout ça va dans tous les sens et vous devez faire des calculs. Ben, moi, j'ai pas tenu plus de quelques secondes.
D'accord.
Donc c'est pas pour moi. Oui. C'est pas pour moi. Et c'est vrai qu'il faut un soutien. Enfin, comment dire, une force psychologique, une force physique. C'est vraiment très très dur, hein. Très dur physiquement.
Benjamin.
Alors notre univers est toujours en chantier. Hein. On apprend que des étoiles se créent, ça on le sait, entourées de planètes. Il est même possible de voir une planète en train de naître. Vous dites, ça peut se faire.
Oui, mais alors il faut que vous faut comprendre que les échelles de temps sont énormes et qu'une planète met quelque chose comme, je ne sais pas, plusieurs millions, 10 millions d'années pour naître. Donc en fait, ça ne veut pas dire qu'on voit une planète. Ça ne veut pas dire qu'on voit une planète en train de se former comme ça sous nos yeux. Ouais. Ça veut dire qu'on observe actuellement, et grâce aux nouveaux instruments qui sont au Chili, on observe actuellement des systèmes planétaires en train de se former, c'est-à-dire qu'on voit une étoile en train de se former, on voit un disque autour, et dans le disque autour, un disque lumineux, si vous voulez, ça c'est le système planétaire en train de se former, et là-dedans, on voit des anneaux sombres, et ça c'est les planètes en train de se former.
Oui.
Mais si vous voulez, pour nous, cette image-là est figée, on ne voit pas une évolution au cours du temps, mais on voit un système planétaire en train de se former.
Et surtout, ce que disait Benjamin, toujours en chantier, et on s'aperçoit avec vos travaux également d'astrophysicienne que bien la Terre, comme le Soleil, c'est éphémère en fait.
Ouais. La Terre n'a pas toujours existé. La Terre a 4,5 millions d'années. 4,5 milliards d'années.
Oui, millions,
oh là là, excusez-moi. 4,5 milliards d'années. Et elle a à peu près encore autant à vivre en même temps que le Soleil et les autres planètes.
Ouais.
Et nous sommes là depuis très peu de temps sur tout ça.
Ouais. Ouais.
Et on mettrait beaucoup de temps pour aller sur une autre planète aussi si on le souhaite. Parce que vous dites 78 000 ans de voyage pour accéder à la première planète habitable.
Les idées qu'on a actuellement, puisqu'on ne connaît pas l'énergie qui est possible pour aller même sur la planète la plus proche, il y a une planète autour de l'étoile la plus proche de nous. Mais l'étoile la plus proche de nous, c'est Proxima du Centaure.
Oui.
Elle est un petit peu plus de 4 années-lumière.
Oui.
Et donc, pour aller là-bas, l'idée, c'est tout un groupe de gens qui va dans un vaisseau spatial.
C'est ça.
Et qui fait des enfants, il y a des générations, et ceux qui arrivent, ce n'est pas ceux qui sont partis.
Voilà, et en tout cas pour rêver, en tout cas pour continuer à rêver, bien, il faut lire votre livre, Sylvie Vauclair, La nouvelle symphonie des étoiles, l'humanité face au cosmos, publié chez Odile Jacob Science. Merci beaucoup d'être passé par 28 minutes.